Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le pape a récité le dernier Angélus de l'année. Devant la foule des grands jours, le Saint-Père est revenu sur la Sainte Famille, célébrée ce dimanche, une famille qui a vécu l'exil. Le pape François qui a récité ensuite une prière à Jésus, Marie et Joseph, qu'il a lui-même composée. Au sommaire de ce magazine, nous entendrons une jeune étudiante qui est volontaire à la rencontre de Thésée, la rencontre écuménique qui s'est ouverte ce week-end à Strasbourg. Et puis dans la deuxième partie, nous terminerons l'année en musique. Notre dernier invité du dimanche de 2013 est un artiste, Nicolas Sani, le directeur de l'Opéra de Bologne. Soyez les bienvenus dans ce magazine. La Sainte Famille à l'honneur en ce dimanche qui suit Noël. Au cours de la dernière prière de l'Angélus de l'année, récitée devant la foule place Saint-Pierre, le pape est revenu longuement sur l'histoire de la Sainte Famille, une famille, a-t-il dit, qui a connu l'exil. Le Saint-Père est ainsi revenu sur la situation dramatique des exilés, internationaux ou au cœur des familles, pour leur rappeler la proximité amoureuse de Dieu. Antonino Gallofaro.
Joseph, Marie et Jésus expérimentent la condition dramatique des réfugiés, marquée par la peur, l'incertitude, l'inconfort, a expliqué le pape François. Une triste réalité dans laquelle aujourd'hui des millions de familles peuvent malheureusement se reconnaître, a complété le Saint-Père. Presque tous les jours, les médias nous apprennent que des réfugiés fuient la faim, la guerre et d'autres graves dangers à la recherche de sécurité et d'une vie digne pour soi et pour sa famille. Ces réfugiés, une fois partis, ne rencontrent pas toujours un véritable accueil, a relevé le Saint-Père, qui a invité les dizaines de milliers de personnes réunies place Saint-Pierre à penser au drame de ces migrants et réfugiés, victimes du refus et de l'exploitation, du travail d'esclaves. Mais d'autres victimes sont également les exilés à l'intérieur de la famille même. En particulier, les personnes âgées, par exemple, sont parfois vues comme une présence encombrante. Comment se porte une famille? Il suffit de voir comment sont traités les enfants et les plus âgés, a répondu le pape. Dieu se trouve là où l'homme est en danger, là où il souffre, a encore relevé le souverain pontife, faisant référence à la fuite en Égypte. Le pape a aussi expliqué que la famille est le lieu où s'apprennent les trois mots clés que sont « s'il vous plaît »,« merci » et « pardon », des mots qui garantissent la paix et la joie dans chaque foyer. Le pape a enfin tenu à encourager les familles, soulignant leur importance dans l'Église et dans la société. L'annonce de l'Évangile passe avant tout à travers les familles, a-t-il dit, pour ensuite rejoindre les divers aspects de la vie quotidienne.
Et à l'issue de la prière de l'Angélus, le pape a récité une prière qu'il a lui-même composée, prière destinée aux familles du monde entier. Il y invoque notamment la Sainte Famille pour que les familles du monde soient des petites églises domestiques. À vous, nous nous adressons avec confiance, Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus dans les familles on fasse l'expérience de la violence, de la fermeture et de la division, a dit notamment le pape. Une prière que vous pouvez retrouver en intégralité sur notre site internet www.radiovaticana.va. Et le message et la prière du pape ont pu être entendus en direct par vidéoconférence depuis Madrid, où se clôturait ce dimanche la 7e rencontre européenne des familles, un grand rassemblement pour fêter les familles du monde entier. Pendant 3 jours, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans la capitale espagnole autour du thème « La famille, un lieu privilégié », une phrase que le pape avait choisie le 26 juillet dernier, pendant les JMJ de Rio, à l'occasion de la fête d'Anne et Joachim, les parents de la Vierge Marie. Pendant ces journées ont alterné tant de prières et d'actions de grâce, mais aussi de réflexion et de partage, des journées pour rappeler que la famille naturelle est la cellule essentielle de la société. Cette grande rencontre espagnole s'est achevée par la messe célébrée ce dimanche par le cardinal Rocco Varela, l'archevêque de Madrid. Et partout dans le monde, de très nombreuses initiatives avaient lieu en faveur de la famille. À Nazareth, par exemple, dans la basilique de l'Annonciation, une messe était célébrée par Mgr Lorenzo Baldisseri, le secrétaire général du synode des évêques. Une messe à l'occasion du prochain synode spécial sur la famille qui se tiendra au mois d'octobre 2014. Le thème de ce synode, les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation.
Thank you.
La ville de Strasbourg, dans l'est de la France, accueille depuis samedi et jusqu'au 1er janvier la 36e rencontre annuelle de la communauté de Thésée. Près de 25 000 jeunes ont afflué dans cette ville, symbole de la réconciliation franco-allemande et poumon de la construction européenne. Ces milliers de jeunes, issus de plusieurs confessions chrétiennes, sont appelés pour ce pèlerinage de confiance à chercher la communion visible de tous ceux qui aiment le Christ. Des prières communes sont prévues, ainsi que des temps de réflexion autour de sujets brûlants tels que le dialogue œcuménique, l'économie, la crise, l'immigration ou encore la construction européenne. L'Europe, bien plus qu'une structure économique ou politique pour ces jeunes, une véritable communauté de destin dont les valeurs fondatrices restent d'actualité. Je vous propose d'écouter Florence, une jeune étudiante et volontaire à ce rassemblement.
Pour moi, c'est vraiment un des grands objectifs de Thésée, chercher à rassembler les gens. Parce que finalement, c'est en se rencontrant qu'on se comprend et donc essayer que toutes les cultures apprennent à se connaître et à se comprendre. Ça, c'est vraiment un signe visible de communion qui peut aussi passer par la communion dans le Christ.
Alors cette année, donc, ce rassemblement de Thésée, ce pèlerinage de confiance a lieu à Strasbourg. C'est une ville symbole à plus d'un titre et notamment parce qu'elle abrite le siège du Parlement européen. La communion que vous décrivez, la communion entre les peuples et notamment entre les églises, puisque c'est ça en fait le charisme de Thésée, c'est de rassembler diverses confessions chrétiennes. Est-ce que vous pensez que l'écuménisme et la communion entre églises a un rôle à jouer dans la construction européenne ?
Je ne sais pas si ce rôle est mesurable de manière... direct, mais en tout cas c'est clair que un rassemblement comme ça qui rassemble des jeunes de tellement de nationalités différentes dans une telle ambiance, ça a nécessairement un impact sur l'Europe et sur la construction européenne. Créer des liens avec des jeunes de l'Europe tout entière, même si ces liens ils sont personnels et que a priori ils vont pas avoir d'impact direct, la somme de tous ces liens, ça a nécessairement un impact à grande échelle.
Alors vous, en tant que jeune, quand je vous parle de communauté européenne, de construction de l'Union européenne, qu'est-ce que ça vous évoque ? Est-ce que l'Union européenne, pour vous, c'est une structure plutôt économique, plutôt politique, ou est-ce que ça va bien au-delà ?
Pour moi, l'Union européenne, ça commence avec les belles idées des pères fondateurs. Et quelque part, on devrait s'en souvenir un peu plus souvent, parce que c'est vrai qu'on nous parle énormément de tous ces aspects économiques. Et je pense que oui, peut-être on devrait se recentrer un peu plus sur les idées des pères fondateurs, parce que l'Union européenne, c'est quand même une structure qui nous permet de vivre en paix, qui n'a cessé de vouloir effacer les différends qui se sont manifestés de manière quand même très violente pendant deux guerres mondiales. Ça doit d'abord être une structure qui nous permet tous de vivre en paix et je pense que c'est vraiment nécessaire qu'on s'en souvienne.
Aujourd'hui, on parle beaucoup d'euroscepticisme. Beaucoup sont ceux qui ne croient plus vraiment à l'Europe, qui ne croient plus aux idéaux que vous évoquez. Selon vous, que peut apporter l'Europe aujourd'hui ?
Je pense que l'Europe peut apporter des valeurs avant tout. Très clairement, je ne suis pas une économiste et je pense qu'à part les dirigeants, il est difficile d'avoir toutes les données nécessaires pour faire une analyse économique vraiment pertinente. Mais je pense que d'un point de vue des valeurs, c'est quelque chose de très important. Et je pensais en particulier à un ami ukrainien avec qui j'ai parlé récemment, qui me disait que pour eux, l'Europe ne représentait pas nécessairement un espoir économique, mais vraiment un espoir en termes de valeurs, puisqu'il espère que qu'un rapprochement avec l'Union européenne aiderait son pays à vaincre la corruption, qui fait vraiment des ravages incroyables.
Des propos recueillis par Manuela à Fidji. Un mot du Nigeria où le cher Aboubakar, le président du Conseil suprême des affaires islamiques du pays, également coprésident du Conseil interreligieux du Nigeria, a lancé un nouvel appel à la tolérance religieuse dans le pays. Il a notamment exhorté musulmans et chrétiens à se tolérer mutuellement, estimant que s'ils s'acceptaient les uns les autres, il y aurait la paix dans la société. Le leader musulman a dénoncé aussi les actes de violence du groupe islamiste Boko Haram, tout en soulignant que son combat pour l'islamisation du pays n'avait aucun fondement basé sur l'islam. Avec plus de 170 millions d'habitants, le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, un pays qui fait, hélas, régulièrement la une des médias en raison des nombreux attentats perpétrés par la secte islamiste Boko Haram. « Terminons cette année en musique. Le dernier invité du dimanche de l'année 2013 est un artiste italien de renommée internationale. Il s'agit de Nicola Sani. Celui-ci est musicien, directeur de l'Opéra de Bologne et compositeur et représente l'avant-garde italienne en matière de musique. Il a réalisé de nombreuses œuvres instrumentales, électro-acoustiques, des œuvres aussi pour le théâtre musical et la danse, des installations et des œuvres mixtes présentées dans les principaux festivals de musique nouvelle. Nicola Sani a obtenu en France la distinction de Chevalier des Arts et des Lettres ainsi que le prix international à Giuseppe Verdi pour l'ensemble de sa carrière. Il est interrogé par Catherine Aubin. L'œuvre musicale que vous entendrez au cours de cet entretien et de sa composition.
Nicola Sani, vous êtes un musicien et vous êtes aussi un compositeur de musique contemporaine, de musique expérimentale. Pouvez-vous nous dire quelles sont vos sources d'inspiration ?
Les sources d'inspiration sont plusieurs. Il y a des sources d'inspiration qui sont liées à l'expérience plutôt spirituelle. Le monde, la culture chrétienne m'a beaucoup influencé. Et notamment dans mes premiers textes de théâtre musical, opéra de théâtre musical, j'ai voyagé dans de problématiques qui sont liées à la religion chrétienne, notamment dans l'incarico et il fine, qui est dédié à la relation parmi Jésus et Judas. Et puis après, dans ma opéra pour la danse Spargimento, éparpillage, on peut dire, où il y a une forte influence surtout du texte biblique de l'Ancien Testament, par exemple l'Ecclésiaste.
Quand vous parlez de Judas, de la figure de Judas dans le Nouveau Testament, l'Ecclésiaste, est-ce que vous pouvez nous dire un peu le fil rouge de cette source d'inspiration?
Le fil rouge, c'est toujours le message sur l'homme, d'éliminer ce qui est artificiel, d'aller vers la substance, vers l'intimité du pensée de l'homme. Donc, j'ai toujours cherché de joindre une spiritualité intérieure. On peut dire ça, par exemple, aussi dans des compositions comme « Pas toutes les îles sont contournées par la mer ». Arriver aux esprits plus personnels, plus intimes, et explorer les périphéries du son. Donc, la relation entre centre et périphérie dans l'humanité et dans l'homme. Alors, toutes les sources qui m'ont amené à réfléchir sur l'homme, sur la solitude de l'homme, sur l'importance d'éliminer ce qui est le surplus et aller à la vraie substance de l'homme et considérer ça aussi dans la métaphore du sang. Donc le voyage dans le sang comme un voyage dans l'homme.
Et d'essayer aussi de faire des ponts entre la périphérie et le centre.
Exactement. Pour arriver à une île, il faut créer des ponts. Alors, faire que la musique, c'est le véhicule idéal pour communiquer avec chaque personnalité, chaque conscience, arriver vers la conscience et utiliser le son comme métaphore d'un geste pour se faire écouter. Donc, le message de Luigi Nono, ascolta, écoute, écoutez ce que t'es pas écouté, ascoltare l'inaudito, disait Luigi Nono. C'est quelque chose qui fait partie de mon bagage amen. L'idée d'écouter ce qui est pas écouté, caché dans la vie de notre temps, qui est parmi les lignes.
Qui est au-dedans des lignes. Écouter ce qui n'est pas possible d'écouter. Écouter au-delà.
Au-delà, exactement. Faire un effort pour écouter au-delà. Une autre pièce de moi auquel je suis beaucoup lié et dans laquelle j'ai utilisé plusieurs textes aussi de la tradition chrétienne, c'est « Voices beyond the edge », donc « Voix au-delà du confin ». Et ça, c'est dédié à les hommes qui ont regardé delà, au-delà du confin de propre temps. Dante Alighieri, bien sûr, mais aussi les hommes de notre temps.
Et quand vous parlez de voir, Nicola Sani, vous parlez aussi de peinture.
La peinture, c'est une influence forte pour moi parce que l'univers visuel est parti de ma musique. Moi, je cherche une communication sonore, mais à travers le son, aussi une image qui n'est pas une image décorative, mais c'est une image intérieure qui correspond à deux visions. Pour vous donner un exemple de Mark Rothko, pour moi c'est très important parce que c'est un voyage spirituel dans les couleurs, dans un univers chromatique qui est concentré autour de certaines polarités. Moi je peux dire que l'art de Mark Rothko et sa profondité, la sacralité, la spiritualité qui inspire la musique de Mark Rothko, c'est quelque chose qui est vraiment fortement partie de mon langage. Donc la recherche d'un langage de communication, la musique doit communiquer. La musique, c'est un langage qui doit communiquer des sensations, des impressions. Ça n'a rien à voir avec la mélodie. C'est un problème de communication de masse, de force qui sont en jeu. Comme les masses et les forces dans la peinture de Rothko, qui n'a rien de figuratif, mais une communication et une spiritualité énorme. Et on voit la tragédie de cet homme à travers sa peinture jusqu'à la fin terrible de son suicide, qui est un voyage vers l'obscurité. Donc j'ai toujours suivi vraiment la façon de communiquer à travers les sons en utilisant une forme de dramaturgie intérieure qui peut communiquer pour de contrapositions des forces qui sont en jeu, donc des tensions. La notion de tension, de spectre, d'espace comme fonction dramaturgique, qui sont vraiment des figures théâtrales à la fin, parce qu'il faut considérer que dans la musique, il y a du théâtre, même s'il n'y a pas un théâtre scénique qui est réalisé sur scène. Moi, je suis intéressé au théâtre musical, mais je suis aussi intéressé à un théâtre intérieur, un théâtre dans le son.
Un théâtre dans le son et un théâtre aussi dans l'espace. L'espace et le son.
Oui, je pense que une des cadeaux que nous a fait le XXe siècle, c'est la notion d'espace. Donc, la musique électroacoustique nous a donné la conception de l'espace comme un paramètre réel de la composition. On a toujours parlé de l'auteur d'un son, de la durée d'un son, de l'intensité d'un son, mais c'était pas clair la notion de paramètre spatial, donc l'espace comme un élément qui est parti d'un langage et d'une partition musicale. Nous avons maintenant très clair la notion de l'importance de l'existence d'un son dans une précise côté spatial. C'est une chose importante si un son est présenté dans une composition à gauche, à droite,
derrière,
devant, quelle est sa position, quel est son mouvement dans l'espace. Parce que la trajectoire du son dans l'espace, c'est un élément dramatique. Il crée un sens profond de déplacement de l'écoute. Donc, utiliser la fonction spatiale, c'est la conscience d'avoir une perception qui est proche de la notion de perspective. Quand je suis dans une salle de concert parmi le public, c'est très différent ma perception selon la position où je suis localisé. Mais si je pense à utiliser ce paramètre, comme l'a utilisé par exemple Luigi Nono dans son Prométhée, qui c'est pas un hasard qui est intitulé Tragédie de l'écoute, parce qu'il y a une tragédie des éléments en jeu dans l'espace. Donc, c'est un théâtre virtuel qui est tout autour de nous à partir de la conception architectonique du son. Dans les ateliers de création de musique, en France, il y a plusieurs, le compositeur est vraiment dans un espace trois-dimensionnel. Il peut gérer la position de chaque son dans l'espace dans une dimension ponctuelle. Donc, on peut vraiment déterminer toutes les trajectoires du son. Et ça, c'est quelque chose qui appartient au langage de notre temps. Et c'est, je trouve, un des plus beaux cadeaux qui sont dérivés de l'expérience expérimentale du XXe siècle.
C'était Nicolas Sani, directeur de l'Opéra de Bologne. Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.